Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Et voici le troisième volet d'une série de quatre émissions sur le grand périple de René Caillé à Tombouctou en 1828. L'explorateur français arrive enfin dans la cité légendaire. Écoutons le récit qu'en faisait un explorateur des années 1980, du siècle dernier, Alain Kerjean, au micro de Marie-Hélène Fraissé. C'était le 24 avril 1984.
René Caillé, voyage à Tombouctou, 1827-1828. Caillé, le piéton de l'Afrique, le premier blanc à découvrir Tombouctou sur la boucle du Niger. Tombouctou, capitale du Soudan. Le premier surtout à en être revenu vivant. Il s'en est d'ailleurs fallu d'un cheveu, car là où nous l'avons laissé, dans l'émission précédente, il était vraiment mal en point. Il avait une blessure au pied, une blessure qui ne se refermait pas. Il avait les fièvres et il avait le scorbut. Il semblait à peu près évident que Caillé allait laisser sa peau à Thiémé, cette petite ville de la Côte d'Ivoire où il était arrivé après des mois et des mois de voyage à pied en suivant des caravanes de fortune. Heureusement, à Thiémé, il va trouver une vieille femme qui va le soigner, et puis la saison des pluies va s'arrêter, sa blessure va se refermer, il va reprendre des forces et il va même pouvoir envisager de continuer sa route.
Le 9 janvier 1828, après avoir pris un léger déjeuner d'igname que la bonne mère nous avait fait préparer, nous nous disposâmes à partir de Thiémé. Je fis à ma vieille gouvernante un joli cadeau qu'elle reçut avec plaisir. Je donnai aussi à Baba quelques marchandises que je lui avais promises pour le dédommager du temps que j'étais resté chez lui. Nous quittâmes le village vers 9 heures du matin, après avoir pris congé du bon vieux chef qui fit des vœux pour notre heureux voyage.
Son itinéraire, en gros, a une forme d'équerre. Jusqu'à présent, il s'est orienté ouest-est, en ligne droite, légèrement vers le sud-est. Et à présent, il va se diriger vers le nord, légèrement vers le nord-est. Donc, un itinéraire à angle droit. Aujourd'hui, le passage entre la Côte d'Ivoire et le Mali est marqué par une barrière de bois, par quelques tampons sur un passeport. À l'époque, bien sûr, rien ne marquait la transition qui correspond à un changement géographique. À partir de la frontière malienne, le paysage devient vraiment beaucoup plus aride. On dit toujours que les frontières coloniales sont complètement artificielles, et c'est vrai. Mais là, en l'occurrence, cela correspond à un changement géographique.
Le 10 janvier, vers 9 heures du matin, la caravane se disposait déjà à partir. Les femmes, avec une lourde charge de colas sur la tête, prirent les devants. Elles furent suivies par des hommes également chargés. Ils avaient chacun une sonnette à la ceinture et plusieurs en avaient une douzaine attachées à toutes les parties de leurs vêtements. Cet attirail produit un tintamarre étourdissant qui leur plaît beaucoup. Ils étaient tous armés d'arcs et de flèches. Ils marchaient en file, comme à la procession. Les chefs et les propriétaires des marchandises fermaient la marche en conduisant les ânes. Je n'ai jamais vu de peuple aussi gai que les Bambara. Dès le coucher du soleil, ils se réunissent sous de gros bombax situés à l'entrée du village et dansent toute la nuit au son d'une musique assez agréable. Attiré par cette musique, je restai un moment et pris plaisir à les voir se divertir. J'étais avec un jeune mandingue de notre caravane qui avait de moi un soin tout particulier. Les femmes et les hommes, mêlés ensemble, formaient un grand rond autour d'un feu, sautant en mesure au son des instruments qui consistaient en trois grosses caisses et plusieurs hautbois. Les musiciens étaient costumés comme ceux de Timée, avec des manteaux en coton blanc et des plumes d'autruche sur la tête. Les danseurs observaient la mesure en remuant d'un air nonchalant les bras et la tête. Les femmes tenaient un morceau de toile de coton de chaque bout qu'elles agitaient en dansant. Ils ne faisaient que tourner autour du feu. Les musiciens se tenaient un peu éloignés des danseurs, qui se suivaient aussi en file, en tournant autour du feu et faisant de grands sauts en écartant les jambes. Le 18 janvier 1828, nous arrivâmes vers le coucher du soleil à Cienzo, gros village entouré de murs qui peut contenir 600 à 700 habitants. À l'entrée, je vis sous un gros baobab un homme bizarrement habillé. On ne lui voyait que les mains et les pieds qui étaient nus. Son habit tout noir, la culotte, la veste et le bonnet qui lui couvraient aussi la figure, étaient d'une seule pièce fermant à coulisses. Ce bonnet de forme carrée était orné de belles plumes d'autruche blanche. La place de la bouche, du nez et des yeux était garnie d'écarlate. Ce personnage ainsi masqué, que l'on me dit être douanier et magistrat, était armé d'un fouet. Les habitants lui donnent le nom de Naferi. Il recevait les droits de passe. Tous les étrangers des environs, ainsi que les caravanes qui viennent dans le village, lui payent ses droits en kori, des coquillages. Les hommes et les femmes s'arrêtent en passant auprès de lui. Et si quelqu'un se refusait à payer la rétribution exigée, il aurait recours à son fouet. J'aperçus à peu de distance de lui, sous un arbre, un gros tas de kori gardé par un homme non masqué. C'était, je pense, la recette de la journée.
Il remonte donc vers le nord. Rien à signaler de particulier, sinon que nous avons eu là beaucoup de difficultés à retrouver l'itinéraire exact. Car le journal de cahier ne suffit pas à reconstituer cet itinéraire. Nous savions qu'il nous fallait compter sur la tradition orale qui est très importante en Afrique. Et cahier a mal retranscrit les noms des villages ou les a retranscrits phonétiquement. Ces villages ont disparu ou ont changé d'emplacement. Il nous fallait donc continuer notre enquête pour reconstituer ça. Et là, ça a été un petit peu flou. Mais nous sommes arrivés, comme le voyageur de 1827, à Djéné. Et là, c'est l'éblouissement pour nous comme pour René Caillé. Djenné, d'abord, c'est le site. C'est la position géographique très insolite. C'est une ville de terre, à l'architecture qui rappelle un peu Gaudi, aux formes très étranges, aux tourelles, aux créneaux, aux pilastres, aux terrasses. Une ville entièrement en terre, à l'architecture très homogène, qui rappelle un peu les casbahs du sud marocain, même si certains voyageurs prétendent que l'on doit ce style aux influences égyptiennes. C'est une ville de terre intacte depuis le XIIIe siècle, lorsque les fondateurs l'ont bâtie sur une île formée par le Bani, au milieu du Bani, le grand affluent droit du Niger. Le site est étonnant, il faut traverser des bras du fleuve à bord de Bac pour arriver dans cette enceinte. Et nous étions très émus car pour la première fois, nous arrivions dans une ville qui comprenait des bâtiments décrits par René Caillet, qui sont là intacts. Jusque-là, c'était des cases, ou même les mosquées. Les mosquées sont des cases plus grandes que les autres, mais dont le toit de chaume est renouvelé tous les 7 ans, je crois. La charpente a changé, les murs ont changé, quand ces mosquées n'ont pas été transformées en bâtiments modernes. Donc là, pour la première fois, ce n'est pas la mosquée que nous avons retrouvée, car elle a été reconstruite au début du siècle, sur le modèle de celle que Caillet a décrite, mais dans d'autres endroits de la ville, eh bien, nous savions que rien n'avait changé. Et là, le danger était beaucoup plus grand pour Caillet. C'est là que nous avons beaucoup plus compris les risques et l'exploit que cela représente. Pour la première fois, il rencontre des morts, des gens qui maîtrisent, qui pouvaient juger de sa connaissance de la langue et de la religion. Alors, il a beaucoup d'appréhension.
Le 12 mars, vers 8 heures du matin, mon guide et moi, nous allâmes rendre visite aux morts. Les mandingues, sans différer, leur annoncèrent qui j'étais, d'où je venais, dirent que mes moyens étaient épuisés et que je leur demandais l'hospitalité. Leur étonnement fut au comble. Ils me regardaient avec curiosité et se disaient entre eux « Aishkund Hadé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Je les saluai d'abord, ils me rendirent mon salut et me donnèrent la main. Puis ils me demandèrent de nouveau qui j'étais. Je leur dis aussi bien que je le pus, car je parlais leur langue très imparfaitement, que j'étais arabe, natif d'Alexandrie, que mon père, zélé musulman, était négociant, très riche, et avait des bâtiments comme ceux des chrétiens, que j'avais été fait prisonnier très jeune par les Français, et que, m'étant sauvé de chez eux, je m'étais déterminé à retourner dans mon pays pour reprendre la religion de mes pères, que j'étais presque sans moyens, et venaient réclamer leur protection pour me rendre à Tombouctou, d'où je passerai à Alexandrie, ma patrie. Ils prêtèrent beaucoup d'attention à tout ce que je venais de leur débiter, mais ils ne parurent pas convaincus. Ils me firent observer qu'Alexandrie était à l'est, et que je venais de l'ouest, puis me demandèrent comment j'avais pu faire pour me sauver de chez les chrétiens. Fort heureusement, j'étais préparé à leur répondre. Je fis un long récit dans lequel je leur disais que le pays des chrétiens était dans le nord et que m'ayant pris à Alexandrie, ils m'avaient conduit dans leur patrie où ils m'avaient donné de l'éducation. Qu'à l'époque où je fus parvenu à un âge raisonnable, le chrétien auquel j'appartenais m'avait emmené avec lui sur un bâtiment et qu'après 2 mois de navigation, nous arrivâmes sur la côte du pays des nègres. Les blancs, continuai-je, ont dans ces contrées de petits villages en propriété où ils placent des établissements de commerce. Je suis resté dans un fort longtemps. J'y tenais le magasin de mon maître qui m'avait donné toute sa confiance et me regardait comme son fils. J'avouai que chez les chrétiens, j'avais mangé du cochon, bu de l'eau de vie et du vin. Ils s'écrièrent tous en arabe « Ah, grand Dieu, et pourquoi en buvais-tu ? » « Parce que j'y étais obligé par mon maître. » Je leur fis observer que si j'avais eu envie de continuer une telle vie, je serais resté chez eux, que c'était pour éviter de commettre de si grands péchés que j'avais entrepris à pied un voyage aussi long et aussi périlleux. « Il a raison, c'est bien vrai, » répétèrent-ils à l'envi en se regardant les uns les autres. Ils poussèrent leurs questions jusqu'à me demander s'il était vrai que les chrétiens mangeassent leurs esclaves.
Thank you.
Les morts établis à Djéné n'étaient jamais de boutique. Ce sont des négociants qui ont des personnes affidées, ou même des esclaves, qui vendent en détail pour leur compte. J'ai toujours vu ces messieurs assis sur une natte tendue devant leur porte, où ils mettent en évidence plusieurs planches de sel en attendant qu'on vienne leur acheter des marchandises ou qu'on leur en apporte à vendre. Ils accaparent ainsi, sans se donner beaucoup de peine, de l'ivoire en quantité, de l'or, beaucoup de riz et de mil, du miel, de la cire brute, des étoffes du pays, des effets confectionnés et beaucoup de petits oignons. Les nègres de Djéné sont aussi négociants, mais leur commerce est moins considérable. Ils trafiquent peu en objets d'une grande valeur, mais beaucoup en zambala, tamarin, piment, poivre long, feuilles et fruits du baobab, gombo, feuilles et fruits de l'oseille de Guinée, pistaches, haricots et une foule de menus articles.
Tombouctou fait encore rêver aujourd'hui, alors que cela fait un siècle et demi que nous pouvons savoir la vérité. Et la vérité, c'est que Tombouctou a complètement occulté, masqué la véritable merveille architecturale, culturelle, commerciale, à tout point de vue, Djéné est infiniment plus intéressante que Tombouctou. Et Caillé a été le premier Européen à rentrer à Djéné, alors qu'il n'a pas été le premier à rentrer à Tombouctou. Même s'il était le premier à en revenir vivant. Caillé a été tellement admis, tellement reconnu, apprécié, qu'il a offert ce qu'il avait de plus précieux, le parapluie. Alors je crois qu'il faut raconter cette anecdote étonnante de ce voyageur qui est censé voyager incognito, qui cachait sa véritable identité d'Européen, et qui arborait pendant toute son exploration de l'Afrique un parapluie, un objet donc complètement inconnu des Africains de l'intérieur du continent. Alors c'était pas vraiment le moyen de passer inaperçu. Et son guide tenait absolument, à l'entrée de chaque village, à ouvrir ce parapluie qui était pour lui un instrument de prestige fantastique. Alors, il avait une excuse, une raison, il revenait de chez les chrétiens, après tout, il pouvait très bien avoir pu acheter cet objet. On a l'impression que cette idée complètement incongrue d'arborer un parapluie était certainement le moyen pour lui de retrouver, dans les moments de déprime, un peu le souvenir de son propre pays, de son peuple, de sa culture.
Les anciens voyageurs nommaient Djéné le pays de l'or. Le fait est que les environs n'en produisent pas, mais les marchands de bourré et les mandingues du pays de Kong en apportent fréquemment. C'est une des branches de commerce de ces riches négociants. Ils s'occupent aussi de la traite des esclaves. Ils envoient ceux-ci à Tafilet et dans d'autres directions telles que Mogador, Tunis, Tripoli. J'ai vu des hommes promener ces malheureux dans les rues. Ils étaient tout nus, et on les criait à 25, 30 ou 40 000 kauris suivant leur âge. Je souffrais de voir une pareille insulte faite à l'humanité. Ceux de ces pauvres misérables que j'ai vus chez les morts de Djéné, et ils en ont tous un grand nombre, ne sont pourtant pas les plus à plaindre. Ils sont très bien nourris, bien habillés et ne travaillent pas beaucoup. Leur sort serait préférable à celui de quelques-uns de nos paysans d'Europe, si rien pouvait compenser la perte de la liberté. En général, ce sont des domestiques de confiance qui, en l'absence des maîtres, gardent la maison ou bien emballent les marchandises et les portent à bord des embarcations. Le 18 mars, on salua la nouvelle lune de plusieurs décharges de mousqueterie. Et le 19, on commença le jeûne du Ramadan. Le Hagi Mohamed vint me demander si je voulais jeûner pendant ce carême. J'avais trop d'intérêt à m'y soumettre pour refuser. Mais ce jeûne me fut bien moins pénible que celui que j'avais supporté en 1824. Car alors, je n'avais d'autre abri qu'une tente, au lieu qu'ici, j'étais dans une maison de la plus grande fraîcheur et où le soleil ne pénétrait jamais. Aussi n'éprouvais-je pas une soif très pressante. Au coucher du soleil, on m'apporta un breuvage de tamarin, puis un second fait avec du miel et du lait aigre, égoutté et séché au soleil, espèce de fromage très dur que les Maures, qui l'aiment beaucoup, apportent dans le pays. On le met en poudre pour le mêler dans la boisson. Les jours suivants, on y ajouta une bouillie de farine très claire, mêlée avec un peu de tamarin pour me faire attendre plus patiemment le souper.
Le 23 mars 1828, René Caillé quitte Djéné.
Là, il y a une rupture de charge, si on peut dire. C'est-à-dire qu'il change à la fois de moyen de locomotion, il voyageait à pied jusque-là, et d'équipe, il se joint à un groupe de commerçants qui se rendaient à Tombouctou. Car Tombouctou était un peu la succursale de Djéné. Ça n'avait que cette fonction de comptoir commercial que les Arabes du Moyen-Âge connaissaient. Parce que ce qui les intéressait, c'est d'acheter l'or, c'est d'acheter la colasse, d'acheter des choses qu'ils ne possédaient pas, en les échangeant contre le sel ou les produits manufacturés européens. Et ils trouvaient tout cela à Tombouctou. Donc ils n'avaient pas du tout envie de changer de moyen de transport, alors qu'ils avaient traversé le désert à dos de chameau. Il leur fallait prendre une pirogue pour aller à Djéné, pour voir quoi, pour retrouver ce qu'ils trouvaient très bien à Tombouctou. Ce qui fait qu'on a parlé jusqu'à présent que de Tombouctou. S'embarque donc à bord d'une pirogue, cette pirogue très curieuse d'ailleurs, qui existe toujours, et qui est une pirogue de, disons, une vingtaine de mètres de long, composée de deux éléments. L'avant et l'arrière sont cousus par des fibres végétales et qui sont recouvertes, ces pirogues, d'un toit, une paille tressée. Et les gens qui avaient accepté le voyageur à leur bord l'ont mis en garde, car nous arrivions là, dans une zone complètement maîtrisée par les Touaregs, qui étaient vraiment très craints par les populations autochtones. Ils taxaient tous les voyageurs. C'était du piratage très organisé. Et lorsque les Touaregs s'apercevaient qu'il y avait un mort, au visage beaucoup plus clair, évidemment, que les autres, ils s'imaginaient qu'il était beaucoup plus riche. Alors on lui a conseillé de se cacher. Et le pauvre Caillé a passé la plupart de cette navigation sur le Niger, au fond de la pirogue, caché sous un amoncellement de nattes. Il était obligé de faire un petit trou au milieu des nattes pour respirer et pour voir un petit peu ce qui se passait. Et arrivé à Tombouctou, il remonte le petit canal qui relie le Niger jusqu'à la ville et qui aujourd'hui est asséché. On réalise par là l'avance du désert et de la sécheresse, il arrive à Tombouctou et le mirage s'estompe au fur et à mesure.
Nous arrivâmes à Tombouctou au moment où le soleil touchait à l'horizon. Je voyais donc cette capitale du Soudan qui depuis si longtemps était le but de tous mes désirs. En entrant dans cette cité mystérieuse, objet des recherches des nations civilisées de l'Europe, je fus saisi d'un sentiment inexprimable de satisfaction. Je n'avais jamais éprouvé une sensation pareille, et ma joie était extrême. Mais il fallut en comprimer les élans. Ce fut au sein de Dieu que je confiai mes transports, et avec quelle ardeur je le remerciai de l'heureux succès dont il avait couronné mon entreprise. Que d'actions de grâce j'avais à lui rendre pour la protection éclatante qu'il m'avait accordée, au milieu de tant d'obstacles et de périls qui paraissaient insurmontables. Revenu de mon enthousiasme, je trouvais que le spectacle que j'avais sous les yeux ne répondait pas à mon attente. Je m'étais fait de la grandeur et de la richesse de cette ville une toute autre idée. Elle n'offre au premier aspect qu'un amas de maisons en terre, mal construites. Dans toutes les directions, on ne voit que des plaines immenses de sable mouvant, d'un blanc tirant sur le jaune et de la plus grande aridité. Le ciel, à l'horizon, est d'un rouge pâle. Tout est triste dans la nature. Le plus grand silence y règne. On n'entend pas le chant d'un seul oiseau. Cependant, il y a je ne sais quoi d'imposant à voir une si grande ville élevée au milieu des sables.
La prochaine fois, René Caillé va piquer droit à travers le Sahara jusqu'à Tanger. Et si vous voulez vous-même suivre pas à pas ce voyage, il est publié. René Caillé, Voyage à Tombouctou, donc c'est aux éditions de La Découverte. Vous pouvez aussi lire le livre d'Alain Kerjean, qui était notre guide au cours de cette émission. Ce livre s'appelle La piste interdite de Tombouctou chez Flammarion.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 24 avril 1984. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.